Je voudrais qu'on première chose lire de l'Épître aux Hébreux une parole très précieuse. Hébreux, chapitre 9, dès le verset 15. Et c'est pour cette raison qu'il est aussi le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'en vertu d'une mort survenue pour la rémission des transgressions, remises pendant la durée de la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent le bien promis de l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est pourquoi, en effet, la première alliance n'a pas été inaugurée sans sang. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et maintenant encore, lequel, le verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du service divin, du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, quelle parole merveilleuse. Un résumé de tout le dessein du salut de Dieu qui concerne notre rédemption. Je te demande, conduis-moi maintenant par ton esprit à dire ce que tu veux dire. Bien-aimé Seigneur, ça c'est mon souhait, c'est ma prière. Je ne me tiens pas ici pour être écouté. Je me tiens ici pour te donner la possibilité de parler par moi, d'utiliser mes lèvres. Conduis-moi par ton esprit et bénis-nous tous par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Cette parole, depuis un entretien avec un millionnaire d'Hambourg, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, ça va faire 3 jours d'ici, à Jakarta. Il cherche dans toutes les religions. Et subitement, il m'a demandé, c'est pas moi qui me suis adressé à lui, c'est lui qui s'est adressé à moi, il me disait, mais vous me semblez être très intéressant. Je voudrais parler avec vous. Et je lui ai dit, intéressant, je ne sais pas, mais je suis prêt à parler avec vous. Alors, il m'a demandé, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que dans notre foi chrétienne, une rédemption a lieu par la douleur et par l'effusion du sang. Devait avoir lieu par la douleur et par l'effusion du sang. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la religion chrétienne est la seule par laquelle c'est par la douleur, c'est par la mort et c'est par l'effusion du sang que aux hommes le salut est promis. Je ne veux pas ici approfondir l'entretien que nous avons eu, ou bien alors redonner l'entretien, mais il a aussi énuméré les autres religions et il disait, mais là, il est médité et là, il y a ceci et cela qui est fait. Mais pourquoi? Pourquoi? S'il y a un Dieu qui existe, auquel je crois, pourquoi est-ce que ce Dieu n'a pas vu une autre possibilité que par l'effusion du sang pour sauver? Que par l'effusion du sang. Pour sauver que par l'effusion du sang. Et ça, c'était pour moi. Oh, une question en or. Une question qui touche le cœur, le noyau même de toute la chose. Et je vais vous dire, de toute ma vie, dans toute ma vie, durant toutes les années dans lesquelles je prêche, je n'ai jamais si fondamentalement pensé à cette question comme après cet entretien. Et maintenant arrive. Écoutez s'il vous plaît attentivement, s'il vous plaît très attentivement. Tous ceux qui ont lu les prédications de Frère Branham savent ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est vrai? Tous ceux qui ont lu les prédications de Frère Branham savent ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Satan, avec sa malice, s'est servi du serpent. Et c'est ainsi que il, par un engendrement, il est venu dans la race humaine pour ici se propager. Et c'est ainsi que, je m'excuse, la nature humaine animale nous a été donnée depuis notre naissance. Maintenant, Dieu devait trouver un chemin par un engendrement divin pour pouvoir lui entrer dans la race humaine et ainsi nous sauver de cette perdition, de cette perversion, nous ramener en nous rachetant et pour faire d'enfants de Dieu de nouveau des enfants de Dieu. Enfants d'hommes, faire des enfants de Dieu. Et ainsi, c'est pour cette raison que cette révélation de Dieu merveilleuse en Christ Jésus notre Seigneur était nécessaire. Je vais vous dire que les larmes alors sont venues, alors que je pensais à tout ça. Et ensuite, les larmes me sont venues. Et ensuite, il y a des hommes que cela a sûrement aussi touché, qui disent, oui, mais Branham, c'est bien, mais là, ce qu'il a dit dans le jardin d'Éden, ce qui s'est passé là, concernant la chute de l'homme, non, ça, c'est catastrophal. Ça, je ne peux pas l'écouter. Ça, c'est terrible. Je ne peux pas le supporter d'entendre telle chose. Avez-vous déjà entendu que des gens vous ont parlé ainsi? Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Je l'ai vécu plusieurs fois. Et c'est pour cette raison que plus grande est devenue pour moi cela une révélation. Et c'est ainsi que je suis encore plus reconnaissant à Dieu pour un homme, William Branham. Et vous savez déjà pourquoi. Lui, c'est à lui que cela a été révélé. ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Et contre cela, le diable et tous ses serviteurs frappent contre cela terriblement. Nous tous qui avons reconnu par révélation cela, nous nous réjouissons de ce que nous savons en quoi a constitué la chute de l'homme pour pouvoir ensuite savoir pourquoi est-ce que la rédemption devait être telle qu'elle a été pour que nous, la race humaine, nous puissions de nouveau être ramenés à Dieu pour devenir une descendance divine. Et ça, c'est la vérité fondamentale de notre rédemption. Demandez aujourd'hui à un théologien, la rédemption. Oui, pourquoi rédemption? Aucun homme sait en fait ce qui s'est passé. Et ça, nous ne le disons pas pour nous élever. Ça, nous le disons par reconnaissance en face de Dieu. Quelle grâce de ce que nous pouvons voir cela. Ici, l'ennemi qui voulait détruire le plan de Dieu avec l'humanité et ainsi lui-même entrer dans la race humaine est entré dans la race humaine par ce croisement, par cet engendrement étrange dans le jardin d'Éden qui a eu lieu. Et c'est ainsi que la promesse dans le psaume 2 est donnée. Tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. Le commencement de la création de Dieu, le commencement de la descendance divine à laquelle, par la grâce de Dieu, nous pouvons appartenir. Je ne sais pas comment est-ce que vous pensez. De cela, je pourrais crier de joie, louer, exalter. Je pourrais lever mes mains et remercier Dieu. Ce n'était pas une théorie dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas une théorie dans le jardin d'Éden qui a causé la chute de l'homme. C'était un acte perverti. Et Dieu, un mauvais acte, et Dieu a, mais Dieu a tout refait bien. Par un engendrement divin, il est devenu homme pour pouvoir verser son sang sur cette terre et de nouveau nous ramener dans cette position divine, comme fils et filles de Dieu. Il y a une question. Avez-vous tous lu Lévitique 17, versets 10 et 11? La vie du corps est dans le sang. Personne ne pouvait consommer du sang parce que la vie est dans le sang. Pourquoi est-ce que nous avons lu justement que sans effusion de sang, pas de pardon? Cela nous ramène au jardin d'Éden. Avant qu'Adam et Ève soient chassés du paradis, le sang a coulé. Le Seigneur avait besoin de peau. Le Seigneur avait besoin de peau pour les revêtir. Avant que je puisse avoir une peau d'agneau pour pouvoir revêtir quelqu'un, il faut que l'agneau ait laissé sa vie, ait perdu sa vie. Et l'Écriture dit qu'il les a habillés de peau. Déjà, directement, dans le jardin d'Éden, Dieu a montré de quoi il s'agissait et ce qui comptait. Si nous prenons ici Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 26, là, il est écrit quelque part, là, que Dieu, je vais peut-être le lire, peut-être, pour peut-être savoir selon les traductions, selon les traductions, que le Seigneur, n'est-ce pas, a racheté l'Église par son propre sang. Il y a eu des traducteurs, et aussi cet homme appartient à ceux-là qui avaient des difficultés à traduire ici à utiliser ici le mot Dieu. Il a utilisé Seigneur, mais en fait, c'est ici, on doit dire Dieu. Je vous lis dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset verset 29. Non, non, non. Mes lunettes sont un peu. Verset 28. Prenez donc garde. Verset 28. Actes chapitre 20, verset 28. Et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu. Ici, ça doit être écrit l'Église de Dieu. Ici, ça doit être écrit Dieu, pas Seigneur. Pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Avez-vous entendu? Donc, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Dans le corps de Jésus, notre Seigneur et Rédempteur, c'est le sang, saint et divin, qui coule dans des veines humaines, un corps humain, pour un objectif bien précis. C'était écrit déjà dans le psaume et aussi dans l'Épître aux Hébreux. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, mais tu m'as formé, préparé un corps. Un corps saint. Un sang saint qui a coulé, qui a été versé. J'aimerais rappeler Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20. C'est la description de ce qui s'est passé à Golgotha. Et il n'y a pas de jour, comparable dans l'histoire du salut, dans l'histoire, pardon, de l'humanité, comme ce qui s'est passé, comme le jour de Golgotha, là-bas où notre Seigneur a laissé sa vie et nous a rachetés et nous a fait grâce. Ce que je veux lire, c'est Jean chapitre 20 et à partir du verset 14. Un moment. Oui, peut-être à partir du verset 16. Jésus lui dit, Marie. Alors elle se retourna, Jean 20, verset 16, et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Maintenant, je voudrais brièvement dire pourquoi est-ce que j'ai lu ce texte. Jésus disait tôt le matin de la résurrection, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Mais va et dis à mes frères. Est-ce que nous comprenons ici de quoi il s'agit? Il est le premier-né parmi plusieurs frères. Je vais lire une autre parole dans Hébreu. C'est précieux. Précieux au-dessus de toute mesure glorieux. Hébreu. Le chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ce n'est pas non plus au moyen du sang des boucs et des veaux, mais au moyen de son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a exécuté une rédemption éternelle. Avons-nous tous entendu cela? Il a accompli une rédemption éternelle. Écoutez. Alors que le matin, Marie de Magdala voulait toucher le Seigneur, il lui a dit, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. » C'était directement après la résurrection. Vous pouvez continuer à lire dans Jean 20, Thomas pouvait le toucher. Le Seigneur a dit à Thomas, « Tends ta main et touche-moi et regarde, constate que je le suis. » Qu'est-ce qui s'était passé? Le Seigneur, comme souverain sacrificateur, avec son propre sang, était entré dans le sanctuaire céleste. Il avait apporté le sang sur le propitiatoire, sur le trône de la grâce, et avait ainsi confirmé au ciel la rédemption qui avait été accomplie sur terre. Et il a dit, je revendique mon peuple de l'Ancien et celui du Nouveau Testament. Je ne sais pas ce que vous pensez à cela, ce qui s'est passé entre le matin et le soir de la résurrection. Mais je ne veux pas ici apporter cette chose avec un certain don de parler. Non, il ne s'agit pas de ça. Je suis touché. Complètement touché du plan du salut de notre Dieu, de la rédemption de tout. Et ici, il y a des gens qui croient à l'unité de Dieu et malgré tout ne peuvent pas classer que le Seigneur subitement dit à mes frères, je ne suis pas encore monté. Regardez, notre bien-aimé Seigneur devait devenir tout en tous. Il devait devenir l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte les péchés du monde, qui porte tous les péchés du monde. Il devait être médiateur d'une nouvelle alliance. Le même devait être avocat. Il devait être tout ce qui appartenait au plan, à tout ce qui était nécessaire, à tout le plan du salut. Les gens trébuchent là-dessus. Ils disent, mais oui, mais s'il vous plaît, est-ce qu'il doit être Dieu? Est-ce qu'il peut être Dieu? Et en même temps, oui, il peut être tout. Il peut être Dieu et en même temps être homme au même moment. Il peut, si c'est nécessaire, être l'agneau de Dieu. Il peut être souverain sacrificateur au même moment. Il peut être avocat au même moment. Il peut être médiateur au même moment. Vous ne pouvez pas graver Dieu dans une forme et lui dire, voilà ton apparence. Et Dieu, non, Dieu est tout en tous. Il se révèle selon la nécessité, selon le conseil du salut de Dieu. Cela me rappelle en fait à quelque chose que j'avais vu à l'hôtel à Manila. Subitement, c'était écrit « Jattel », ça veut dire en allemand « chapelle ». Je me suis dit, bon, regarde à l'intérieur, s'il y a quelqu'un à l'intérieur, des gens à l'intérieur, tu pourras peut-être leur adresser la parole. Et c'était une chapelle catholique avec une image censée représenter Jésus. Les genoux étaient complètement meurtris et peints à l'encre rouge, probablement complètement défigurés. Et je me suis dit, mais il est écrit, vous savez, on voulait, c'est écrit, mais ils n'ont pas eu le droit de le faire. ils n'avaient pas le droit de briser ses os. Et j'ai pensé de nouveau, oh Dieu. Et il montre une image du Seigneur, soi-disant du Seigneur, qui devait représenter le Seigneur, avec des genoux meurtris, des membres meurtris. Je dis, mais qu'est-ce que les hommes ont fait de la chose de Dieu? De nouveau, c'est venu sur moi. Je me suis retourné. Les larmes ont coulé. Et je pensais, oh Dieu, accorde-moi la grâce et la possibilité de dire à toute l'humanité, mais vraiment, à toute l'humanité, de leur apporter la parole de Dieu aux hindous, comme aux musulmans, aux sikhs, comme les bouddhistes, aux appelés chrétiens de toutes sortes, et pour finir, quand Dieu le permettra, aussi au peuple d'Israël, vous savez exactement que les deux témoins iront là-bas, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons cela dans le cœur, que Dieu, avec tout son dessein du salut, atteigne l'achèvement. Le point culminant, il le fasse avec nous et qu'ensuite, il le fasse avec le peuple d'Israël. En fait, cela me rappelle cet homme de l'Ukraine et j'ai pu bien communiquer avec lui. Quand on connaît une langue slave, on peut aussi presque parler tous les autres, les trois autres. Et je lui ai demandé concernant la foi en Jésus-Christ. Et il a dit, oh, je crois. Notre église disait, notre église est tellement belle. Et depuis que Gorbatchev gouverne, toutes les églises ont été repeintes. Et tu dois voir à l'intérieur, c'est tellement, tout a changé, c'est tellement beau. Je lui ai demandé, mais écoute, c'est pas ce que je t'ai demandé. Comment vont les églises et dans quel état elles sont? Moi, je t'ai demandé si tu crois. Et alors, brièvement, je lui ai montré la différence entre l'église, entre croire à des bâtiments et à leur beauté et en Dieu. Et que c'est deux choses différentes. Et il s'est même réjoui. Ouais, les gens ont perdu l'orientation. Ils ne savent absolument rien, absolument rien. Demandez aujourd'hui à nos compatriotes ici au centre de l'Europe, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il a fait. Personne sait quoi que ce soit. Toute la théologie est sous la puissance du malin. Que ce soit, donc tout, les églises, les églises libres, tout, bien sûr. Ça appartient au dimanche, ou bien au déroulement d'une foi dite chrétienne, mais d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une relation, une liaison à Dieu, d'avoir une communion personnelle avec Dieu. Qui l'a aujourd'hui, vraiment? Qui l'a? Et maintenant arrive le centre de notre prédication cet après-midi. Ce qui s'est passé à Golgotha a eu lieu pour nous ramener en communion personnelle avec Dieu. La relation, rétablir la relation, ôter le mur de séparation, donner la paix à ceux qui, par grâce, prennent part à la rédemption et croient. Et pour cela, on n'a pas besoin de catéchisme. On n'a besoin de rien. Seulement d'écouter une seule et unique prédication, une prédication de Jésus-Christ, le crucifié. Et si ensuite en toi, bien-aimé cœur, si alors en toi ensuite un oui intérieur vient, un amour à ton Seigneur s'éveille, alors Dieu t'a déjà appelé. Alors Dieu t'a déjà appelé. Pas seulement la religion, non. Pas seulement un peu d'entretien dite chrétienne, mais une relation, une communion et une liaison personnelle avec Dieu. D'avoir communion avec Dieu, vivre dans sa présence, avoir reçu la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que nous comprenons maintenant ce que cela signifie? Que en lui était la vie et que la vie était la lumière des hommes. Jean 1. Et ensuite, Jean 10. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour les brebis pour qu'elles puissent avoir la vie et l'avoir en abondance. Alléluia. Glory soit à notre Dieu exprimé. Gloire. Nous devons être par la prédication réveillés. Quelque chose doit se passer en nous. Je l'espère. J'espère que quelque chose se passe. J'espère que Dieu nous submerge, nous secoue, nous touche à tel point que nos yeux soient oints du collier de l'onction pour que nous puissions voir ce que Dieu a vraiment fait. S'il vous plaît, comprenez-moi. J'ai vu le monde. Je connais le monde d'en haut, d'en bas, de tous les côtés. J'ai vu des gens de différentes religions dans leurs activités pratiques. J'ai vu à quel point mon cœur est déchiré par tout cela. Aucun homme ne peut le mesurer. Car les lieux sacrés, les montagnes sacrées, les bâtiments sacrés sont sacrés ici, sont sacrés là. Frère Davis vient, oui, d'Inde. Il y a là la vache sacrée. Combien de fois ai-je regardé les gens manger la bouse de vache, les excréments de vache. Vous avez entendu les excréments de vache. Vous l'avez entendu? Ils ont fait griller les cendres et les ont appliquées sur leur front et ils se promènent avec ça. Ce sont donc les cendres sacrées de la bouse de vache, des excréments de vache sacrés, de la vache sacrée. Il y a 750 millions de personnes sur Terre qui n'ont jamais entendu le message de Dieu. Comprenez-vous ce que je ressens? Comprenez-vous ce que je ressens? Oh, que Dieu, avant que je ne quitte cette terre, qui me donne encore la chance, la possibilité de proclamer au monde entier la parole de Dieu, la parole de la croix, de la réconciliation, de la rédemption, de la justification, du salut, pour que tous, hein? Ils ont tous leur lieu saint, leurs choses saintes. Et qui donc a fait là les choses saintes? Qui donc a fait la vache sainte? Mon malheur, il n'y a qu'un seul saint. Dieu dit, je suis saint et vous devez être saint. Lui, le Dieu saint, sanctifie son peuple dans la vérité. Et dit, ma parole est la vérité. Sanctifie-les dans ta vérité. Vous voyez? Bien que je suis bouleversé intérieurement, complètement bouleversé par tout ce que j'ai vu et entendu, et en y repensant spécialement à ce responsable à Manila, qui a dit tout à coup, oui, pourquoi n'avons-nous rien appris de toutes ces choses jusqu'à aujourd'hui? La réponse est très simple. Parce que tous les évangélistes que vous avez invités jusqu'à présent n'en savaient rien eux-mêmes. Et alors, j'ai dû dire, un grand jugement sera prononcé sur tous les où est-ce le terme allemand, je pense peut-être encore en anglais, hein? Tous ces gens qui viennent des États-Unis, je pense, ouais, sur tous ces évangélistes qui ont vu le ministère de Frère Branham, qui ont vécu le ministère de Frère Branham, qui l'ont vu, qui ont été témoins oculaires et auriculaires de ce que Dieu a fait et qui sont ensuite partis pour établir leur propre royaume à l'intérieur du royaume de Dieu. Mais ce que Dieu a dit par l'intermédiaire de Frère Branham, Ils l'ont laissé à droite et à gauche tomber. Ce n'était pas pour eux, n'est-ce pas? Ils ont simplement tiré profit de la chose. Je ne veux pas être dans les chaussures de ces grands évangélistes au jour du jugement. Aujourd'hui, nous sommes les méprisés. Aujourd'hui, nous sommes ces gens de Branham là qui croient ceci ou cela. Quelqu'un m'a dit, qui peut être aussi naïf pour croire à cela? Oui, je dis donc, moi je peux l'être. Je n'ai aucun problème avec ça, je peux le faire. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une révélation. Si elle n'est pas révélée, si cela n'est pas accordé à un homme par révélation, c'est obscur pour lui. Cela ne brille pas pour lui. Fondamentalement, tout dans le royaume de Dieu est fondé sur la révélation. Jésus disait, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu l'as révélé au tout petit. Alléluia! Alléluia! Gloire à notre Dieu! Il nous l'a révélé. Qu'est-ce que j'en peux? Qu'est-ce que j'y peux? Je l'ai probablement dit déjà ici. À l'époque, j'étais assis parmi 16 à 20 000 personnes dans une grande réunion de Frère Branham. Jeune, de plusieurs années, je ne connaissais personne, pas même Branham. Mais j'étais assis là et j'écoutais. J'écoutais. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. En 1955, une activité était une rareté dans notre pays. Ceux qui l'avaient devaient la garder. Il n'y avait pas encore, pas de semaine de 40 heures, il y avait une semaine de 60 heures. Certains s'en souviennent. Et moi, dans mon entreprise, j'ai dit à la dernière minute, je dois partir une semaine en voyage. Et on m'a répondu que ce n'était pas possible. Et j'ai dit, mais il faut que ça aille. Alors la réponse a été, quand vous reviendrez, vous pourrez aller chercher les papiers de sortie, de renvoi. J'ai dit, bien, alors je vais les chercher. Je n'avais reçu qu'une carte postale. Un homme du nom de William Branham parle là et là, de jusqu'à... Je n'avais pas de temps de m'arranger avec mon patron, mais il y avait une chose dans mon cœur. Au diable tout ça. Il y avait un train, je ne peux même pas vous le dire. Je n'ai jamais conduit une moto aussi vite de toute ma vie. À l'époque, je n'avais pas de voiture, mais une moto, les temps étaient différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais parmi tous ces milliers de personnes, des paroisses à profit entières, des hommes au col retourné, des évangélistes et des prédicateurs, en grand nombre, tout le monde était là. Un petit groupe par-ci, un cercle par-là. Toutes les langues, les uns critiquaient, les autres disaient. Mais dans mon cœur, il n'y avait qu'une chose. La reconnaissance. J'ai fait que pleurer pendant des heures. Je n'ai encore jamais vécu une nuit comme ce dimanche, du dimanche au lundi, où j'ai pleuré de reconnaissance jusqu'à plus de 3 heures du matin. Je voulais toujours arrêter. J'ai dit, Seigneur, je dois arrêter, je ne peux plus. L'humidité n'est même plus là. L'humidité. Je voyais de quelle manière Dieu pouvait utiliser cet homme simple, de manière si majestueuse, si glorieuse, si parfaite, si convaincante, si biblique. J'ai vu devant moi un livre des Actes des Apôtres. Je voyais les jours de la Bible se dérouler devant moi, de mes propres yeux. Je ne voyais pas Jésus-Christ comme une personne historique ayant vécu il y a 2000 ans. J'ai vu Jésus-Christ lui-même au milieu de nous, parler, agir, sauver, guérir. Oui, comprenez-moi s'il vous plaît. Que me restait-il à faire? Sinon remercier. Et avec cette reconnaissance, il y avait des larmes de joie, des larmes de reconnaissance, pas de souffrance, de la reconnaissance. Je n'ai eu qu'à dire encore et encore, Seigneur, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vois cela vraiment? Est-ce que je peux saisir ce que se passe ici? Des aveugles de naissance sont devenus voyants. Des personnes atteintes d'un cancer incurable amenées sur une civière ont été guéries. Ils ont pris eux-mêmes leur civière, l'ont soulevée au-dessus de leur tête et sont sortis. Je regarde, j'ai vu ce que Dieu était en train de faire. Et puis, je me suis uni intérieurement à cet homme de Dieu. Mais si intimement, que ce soit, je ne sais pas si vous avez vu une photo où frère Branham boxe, c'était un boxeur. Il a gagné quelques coupes même. C'est nouveau pour vous, mais j'ai tout un album de frère Branham avec, comme je l'ai dit, de différentes occasions. Cet homme simple qui avait les deux pieds sur la vie sur terre, dans la vie sur terre, était le plus grand homme de Dieu depuis les jours de Jésus-Christ. Dieu l'a envoyé. Pas seulement pour faire des miracles et des signes, Dieu l'a envoyé avec un message. Et c'est ce que j'ai dû dire à un homme, d'une certaine manière, cet élégant prédicateur pentecôtiste, là, à Jakarta, qui m'a soudainement demandé, frère Franck, dis-moi une fois, c'était la voix du Seigneur qui te parlait comme le bruit de nombreuses eaux. J'ai dit non. Absolument pas la voix du Seigneur. Le 2 avril 62, avant le lever du soleil, n'était pas comme le bruit de nombreux eaux. Elle était plus claire comme je parle ici maintenant. Chaque syllabe, finalement, totalement accentuée. La voix était puissante. L'homme voulait savoir s'il y avait du bruit quelque part dans l'eau, dans la voix. Non, il n'y a pas de bruit parce que je sais que la voix du Seigneur peut être comme le bruit de nombreuses eaux. Je le sais aussi, mais quand le Seigneur m'a parlé, ce n'était pas le bruit d'une eau. Non. Mais c'était clair et net. Pas une syllabe, pas une lettre omise ou engloutie. J'ai pu mettre même une virgule et un point après que le Seigneur ait parlé. Absolument. Tout simplement puissant. Tout simplement unique. Je suis d'autant plus reconnaissant d'avoir vécu la grâce, reçu la grâce sans le vouloir, sans le chercher, de porter et de poursuivre le ministère de frère Branham, de porter et de poursuivre le ministère de frère Branham dans le monde entier. Mais j'ai quand même dû dire à cet homme, écoute, moi maintenant, s'il te plaît, aujourd'hui, tu as pris une responsabilité que tu n'avais pas auparavant et que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, tu sais de quoi il s'agit. Et puis je lui ai dit, le 11 juin 1933, vers 2 heures de l'après-midi, c'est-à-dire 14 heures, alors que frère Branham était sur le point de baptiser la 17e personne, il a levé la main et a prié. Ô Dieu, comme je baptise dans l'eau, que tu puisses me baptiser d'esprit et de feu. Et cela s'est produit. Ce fut comme un orage, comme un tonnerre. Et la lumière descendit. Et la voix se fit entendre. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Je crois que ce n'est pas seulement... Non, pas seulement parce que je l'ai entendu plusieurs fois de la bouche de Frère Branham. J'ai vu personnellement entre 10 et 15 témoins oculaires en avril 1966 à Jeffersonville, Indiana, USA, qui ont levé les mains quand on leur a demandé qui avait été présent. Quand en juin 1933, la chose s'est produite. J'ai bien sûr essayé de compter les mains. J'ai bien sûr essayé. On ne peut pas trop le faire dans ces moments-là. Pour être sûr à 100% et pour tenir devant Dieu, pour subsister devant Dieu, j'estime entre 10 à 15 personnes, entre 10 et 15 personnes, le nombre de personnes qui ont levé les mains, qui ont vu ce que Dieu faisait. Et imaginez-vous qu'il y a des gens qui viennent encore aujourd'hui, même des États-Unis. Il y avait un voisin de Frère Branham et il a dit, je ne sais de rien, je suis au courant de rien. Nous pouvons être ici, que ce soit à Zurich, en Suisse, en Autriche, en République fédérale d'Allemagne, n'importe où dans le monde. Il y a des gens qui le voient, d'autres qui ne le voient pas. Il y a des gens qui l'entendent, d'autres qui ne l'entendent pas. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit, bénis sont vos yeux, bénis sont vos oreilles, car vous voyez et entendez ce que les prophètes n'ont pas vu. Bien-aimés, si je dis cela, c'est peut-être pour nous rappeler la grâce qui nous a été accordée. Et cet homme lui-même, après que nous ayons étudié brièvement l'Apocalypse, je l'ai probablement déjà dit tout à l'heure, sa réponse fut, tous les prédicateurs et tous les évangélistes doivent entendre cela. Cela n'existe pas. Je dis si, ça existe. Et j'espère que Dieu ouvrira les portes là aussi. Le temps est simplement là. Nous l'avons dit lors du passage de l'année 87 à 88. Le temps n'est pas seulement proche. Le temps est là. Le temps est là. Que celui qui veut servir Dieu le serve maintenant. Pas demain, ni après-demain, ni l'année prochaine. Celui qui veut consacrer sa vie à Dieu, qu'il le fasse maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux croire, crois aujourd'hui. Il n'y a pas de temps pour la réflexion, ni non plus un besoin. Pourquoi devrions-nous réfléchir? Pour nous, ce que Dieu a fait est une réalité absolue. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Devez-vous encore vous convaincre vous-même avec difficulté, ou est-ce que Dieu vous a convaincu? Amen. 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 C'est une chose. Et ensuite, pas seulement convaincu, mais fondé sur la Bible, un fondement, avec toutes les promesses que Dieu a faites et qu'il maintenant accomplit, qu'il amène maintenant à leur accomplissement. Nous n'avons pas seulement prêché, nous avons prêché la parole de Dieu. Nous n'avons pas seulement parlé, nous avons dit ce que l'Esprit a maintenant à dire aux églises. Maintenant, nous avons parlé de ce que Dieu a promis à son peuple. Nous n'avons pas pensé ou parlé à côté de Dieu. Parler ou penser à côté de Dieu. Nous lui avons donné la possibilité de parler lui-même à travers nous, de nous interpeller, de nous dire ce qu'il veut dire à son peuple dans ce temps, maintenant. Lorsque l'on parcourt le monde, comme nous l'avons déjà remarqué, on entend parler de grandes campagnes qui devaient avoir lieu ici et là. Des campagnes pour qui? Des campagnes pour quoi? Pour être fêtées, honorées, pour être glorifiées, pour remporter un grand succès, pour récupérer peut-être quelques dollars, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule campagne de Dieu. Et c'est, comme il a dit, en conformité à sa parole. C'est le retour à la Bible, le retour à la vérité, le retour au message divin. Reconnaître ce que Dieu fait de nos jours. Personne ne pourra me faire comprendre qu'il va au ciel, mais qu'il passe tout en passant à côté de ce que Dieu fait maintenant depuis le ciel. Cela n'est pas possible. Ça ne va pas. Comment? Et il y en a beaucoup, beaucoup qui pensent aller au ciel. Et vous devriez voir cela dans le mouvement charismatique. Ici et là, les gens titubent de gauche à droite. Et d'une certaine manière, ils sont déjà sur les nuages. Que se passera-t-il le jour où notre Seigneur reviendra chercher les siens? Qui sont-ils? Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Et sa voix est sa parole. L'Éternel, notre Dieu, a sur terre une troupe rachetée par le sang, par son sang, qu'il a réconcilié avec lui-même et dont il a rétabli la communion avec lui et nous a accordé par grâce la vie éternelle. J'en suis reconnaissant. Mon Seigneur et Sauveur a accompli l'œuvre, une rédemption valable éternellement. Acceptez-la, s'il vous plaît. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Acceptez cela. C'est un cadeau, c'est un don, une grâce de Dieu. S'il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui ne l'a pas encore accepté, je vous en prie, acceptez-le aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas seulement une personne historique. Il est Dieu révélé, manifesté sous forme humaine. Il est fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Il est roi, sacrificateur et prophète. Il est beaucoup de choses. Il est tout en tout. Il a assumé chaque domaine qui faisait partie de la rédemption, quel que soit le rôle à jouer, il a assumé et est devenu ce qu'il devait devenir pour l'amour de nous. Aujourd'hui, nous le commémorons d'une manière toute particulière, non pas par un pèlerinage à Jérusalem, sur la colline de Golgotha, mais en venant au Seigneur avec foi, en étant touché intérieurement et en disant « Ô Seigneur, c'est ce que j'ai signifié pour toi, c'est ce que je valais pour toi, que tu aies donné ta vie pour moi. » Et c'est alors que les larmes apparaissent, nous reconnaissons alors comme des créatures misérables et nous réalisons en même temps que Dieu nous a fait grâce. Notre Seigneur et Sauveur est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Je pense, je n'oublierai jamais dans ma vie une conversation avec un témoin de Jéhovah. Il disait tout simplement que le sang est parti en fumée, a disparu dans la poussière. Oh non, et encore non. Le sang de l'agneau ne s'est pas perdu dans le sable. Mon Seigneur, en tant qu'agneau de Dieu, a versé le sang. Et en étant ce grand souverain sacrificateur, il est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Cela ne s'est pas perdu dans le sable. Aujourd'hui encore, le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel ou que le sang des boucs et des taureaux n'ait pu parler. Ici, aujourd'hui, il parle pour nous. Puis je demandais comment et quoi, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous le dire. Il nous déclare libre. Amen. Il nous déclare libre. Non coupable. Il nous déclare libre. Gloire à notre Dieu. L'aimez-vous de tout votre cœur? Aimez-vous vraiment le Seigneur de tout votre cœur? Aimez-vous la parole révélée, la parole glorieuse? Parfois, j'ai tendance à le faire. Je l'ai encore fait cette fois-ci. J'ai embrassé la Bible plusieurs fois. C'est peut-être incompréhensible pour vous, mais il y a des heures, il y a des minutes où je suis tout seul. Et alors, il semble que je sois relié à Dieu par l'Esprit et que je sois conduit dans les profondeurs du plan du salut. Je ne peux plus faire autrement. Alors j'attrape ma Bible et je l'embrasse ici et je la frappe de tous les deux côtés et je l'embrasse là. Cela peut vous paraître étrange, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est moi qui le fais. Cela m'émeut, me touche tout simplement. Je suis conduit ainsi, je ne peux pas l'expliquer à personne. Imaginez qu'après environ 2000 ans, la parole a été révélée pour la première fois de manière si claire dans sa signification originelle, pas plus tôt, mais maintenant. Et Dieu a utilisé l'un de ses serviteurs, notre bien-aimé frère Branham, pour nous ramener à la Bible et à la parole. En êtes-vous également reconnaissant? Croyez-vous de tout cœur qu'il était un homme envoyé par Dieu, envoyé de Dieu? Était-il un homme envoyé de Dieu? Alors il avait un message divin s'il était envoyé. S'il avait un message divin, nous avons à l'écouter. Et si nous ne l'écoutons pas, malheur à nous. Car notre Seigneur a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui ne vous reçoit pas, et celui qui vous reçoit, pardon, me reçoit. Ce n'est pas la question. Je l'ai déjà dit. Les gens demandent, alors quelle est ta position par rapport à Branham? Oui, il y en a différentes personnes et différentes questions. Nous ne voulons pas en parler maintenant. Il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit de ma position vis-à-vis de Dieu. Et de ma position vis-à-vis de Dieu. Et si ma position vis-à-vis de Dieu est bonne, alors elle est en accord avec tout ce que Dieu a envoyé, qui ont parlé au nom du Seigneur, ou non. Vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. Par exemple, Jean était un homme envoyé par Dieu. Un homme envoyé de Dieu. On ne peut pas dire, va où tu veux, moi j'irai où je veux. Ce n'est pas possible. Quand Dieu envoie des hommes, et ça c'est très très rare. Parfois j'y pense aussi, on m'a même demandé ce qui se passerait si le Seigneur me reprenait directement, soudainement. C'est une question qui peut être posée si le Seigneur me reprenait soudainement. Tout le monde est remplaçable. Tout homme est remplaçable. Et quand j'ai pensé à aujourd'hui que mon frère bien-aimé Werner allait commencer ici aujourd'hui, une pensée m'est venue. Je ne connais personne qui ait autant à cœur de servir Dieu. Je connais beaucoup de gens qui aimeraient servir Dieu, mais aucun comme toi, qui y tiennent autant, aussi profondément et aussi intimement. Pas seulement d'être croyant, mais d'être au service du Seigneur quand le Seigneur revient. Et j'ai pensé en moi-même, oh Dieu, bénis mon frère bien-aimé et accorde-lui le privilège de voir le désir de son cœur se réaliser avant ta venue. Je souhaite la même chose à tous mes bien-aimés frères. Je ne connais peut-être pas aussi bien les autres frères ou je ne l'ai pas entendu aussi directement dans la conversation. Il devrait y avoir, s'il y a des frères, s'il devrait y avoir des frères parmi nous qui intérieurement ont un désir, une envie de servir le Seigneur. Frère bien-aimé, qu'il vous soit donné, cela vous sera donné par Dieu avant la venue du Seigneur. Cela vous sera accordé. Vous devez voir de vos propres yeux que Dieu est fidèle et confirme sa parole. Et que vous n'étiez pas la cinquième roue du carrosse, en quelque sorte un pneu de réserve qui a dû dépanner en cas de panne. Mais lorsque Dieu fera le dernier tour de piste avec son peuple, vous en aurez aussi votre part. Sœurs bien-aimées, il en va de même pour vous. Nous sommes tous dans le même bateau, que ce soit pour la prière ou le ministère. Nous sommes intimement liés à Dieu et intimement liés les uns avec les autres. Les uns servent le Seigneur dans la prière, les autres dans le ministère. Souhaitez le meilleur à l'un et à l'autre, mais vraiment du fond du cœur, pour pouvoir dire au Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, aide toi-même ton chemin avec nous. Pour conclure, revenons à cette parole. Notre Seigneur est entré dans le sanctuaire céleste et a accompli une rédemption valable éternellement. Et cela pour toi et pour moi, pour nous. Si nous sommes rachetés, nous sommes alors en contact, en relation, en liaison avec notre Rédempteur. Et nous entendons alors ce qu'il a à dire à l'Église, aux Églises. Que Dieu, nous écoutons alors. Que Dieu nous fasse la grâce de nous mettre en conformité, en accord avec lui et sa parole, de telle sorte que tout soit vraiment harmonieux et que Dieu puisse nous utiliser. Sans effusion de sang, pas de pardon. Encore une fois, parce que la chute de l'homme était telle qu'elle était, le Seigneur devait trouver un moyen pour, sur cette terre, prendre la forme de la chair et du sang pour nous racheter et nous remettre dans la condition divine. Ce que Satan avait corrompu, Dieu l'a réparé en Christ Jésus, ou en Christ. Aucun homme n'a besoin de se perdre. Tout le monde peut être sauvé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le jour, c'est le Seigneur qui l'a fait. Réjouissons-nous et donnons-lui gloire. Un salut complet et libre. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a acquittés, a pardonnés, nous a déclarés libres, nous a réconciliés avec Dieu. Le mal qui a été fait a été réparé. Glorieux Golgotha, glorieux Golgotha. Mon péché est pardonné. Ma dette, mes fautes sont payées. Nous sommes libres. Pouvez-vous vous en réjouir? Pouvez-vous vous en réjouir? Libre pour toujours, éternellement, libre de toute dette, de toute faute. Pas d'imputation de la dette, de la faute. Bien sûr, il n'y a pas que les hommes d'affaires qui font parfois deux factures. Le diable aussi peut le faire. Il établit alors une toute nouvelle direction avec une date quelconque et dit ainsi, ceci et cela. Et ça, il faut encore le régler, le rembourser. Vous connaissez toutes ces choses. Mais alors, nous y repensons. Satan n'a pas le droit d'établir une quelconque facture en disant que ceci et cela encore doit être payé et que cela n'a pas encore été payé et réglé. Alors, nous disons simplement, et de tout notre cœur, que la lettre de culpabilité est déchirée, que ma dette est payée, que mon péché est pardonné. Je suis libéré, je suis libre, Jésus m'a donné la vie, je suis libre, je suis libre. Et puis, alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais parfois que nous ayons une mentalité comme celle des Africains. Oh, ils auraient déjà rassemblé la moitié de la salle dans la joie. Alors, d'un tel après une telle prédication, ou n'est-ce pas? Mais je sais que nous avons une mentalité, ou bien une époque, une mentalité d'Europe centrale. Nous le portons très, très profondément en nous. Nous ne pouvons pas exprimer les choses de cette manière. Pourtant, nous disons aujourd'hui une fois à notre Seigneur, bien-aimé, qui s'est fait homme, qui a tant souffert, qui a tout pris sur lui et qui a ensuite versé son sang pour nous racheter. Remercions-le aujourd'hui de tout notre cœur. Mais une fois ensemble, s'il vous plaît, vraiment, sans si ni mais, il y a des gens qui ne peuvent pas prier librement. Mais si nous remercions tous, alors les frères, si nous remercions tous les frères, nous remercierons à haute voix et nous prierons tous ensemble avec eux. Et c'est ainsi que nous allons aujourd'hui offrir de tout cœur nos remerciements au Seigneur, notre Dieu, non pas par obligation ou par contrainte, mais simplement par amour pour ce qu'il a fait pour nous et en nous, et pas seulement cela, mais pour ce que j'appelle maintenant l'immense privilège d'avoir reçu une direction divine par sa sainte et précieuse parole en ce temps au milieu de toute la confusion, de toutes les interprétations et les directions et interprétations et explications. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur, si le Seigneur viendrait me reprendre aujourd'hui à la maison, la parole prêchée est vraie. Nous savons en qui nous croyons et nous savons ce que nous croyons. Nous croyons en Dieu et nous croyons Dieu. Nous croyons la parole de Dieu. Sans interprétation, ainsi, nous croyons la parole de Dieu sans aucune déduction, sans aucune interprétation. Nous avons ainsi obtenu le lien avec Dieu par la parole. Lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul Dieu véritable et tout-puissant qui puisse nous bénir aujourd'hui de la bénédiction qu'il a donnée à l'humanité par Golgotha. Par Golgotha. Il avait promis auparavant, mais il a donné par Golgotha. Qu'il nous bénisse avec la bénédiction qu'il nous a donnée à Golgotha en Jésus-Christ, notre Seigneur. La parole de l'Écriture, où il est écrit, comment Dieu ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Oh, on pourrait aller d'un passage à un autre. Faisons-en l'expérience aujourd'hui. Les vérités expérimentées personnellement, simplement, sont les meilleures vérités. Nous pouvons aujourd'hui faire l'expérience du Seigneur en personne, donc très personnellement. Il n'est pas loin, il est au ciel et il est présent. Selon la parole de l'Écriture, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est ici aujourd'hui, car comme il a dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeurera éternellement. L'Écriture ne peut pas être brisée et annulée. Je suis revenu de ce voyage reconnaissant. Reconnaissant pour ce que Dieu a fait, reconnaissant pour les portes ouvertes, mais aussi reconnaissant pour vous tous. Je désirais ardemment être ici. Et quand il m'a semblé que ce n'était plus possible, c'était fini pour moi. Un soupir vers Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, cela ne doit pas m'arriver. Cela ne doit pas arriver. J'aime mes frères et mes sœurs. Je veux être à Zurich. Dieu me l'a donné. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous bénisse tous par grâce au nom de Jésus. Amen. Levons-nous pour adorer. Moi aussi, aujourd'hui, en ce lieu, je veux te remercier du fond du cœur. Te remercier. Remercier encore une fois, te remercier pour le salut, pour le pardon, pour l'amour que tu m'as prouvé à moi et à beaucoup, beaucoup d'autres. Je te remercie de ce que tu nous as parlé, de ce que tu nous as parlé, et que ta parole ait pris vie en nous, que nous puissions croire, comme le dit l'Écriture, en ces jours aussi. Nous pouvons nous en tenir à ta parole, nous orienter selon ta parole. Ô Seigneur, bien-aimé, méprisé dans ce monde comme l'ont été les prophètes et les apôtres, et comme il est aussi écrit à ton sujet dans Ésaïe 53, méprisé, évité par les hommes, tu es passé, tu es allé, aujourd'hui nous y allons. Mais nous portons une noble semence, une semence glorieuse, ce qui est le plus précieux, ce qui est cher, saint, la sainte parole de Dieu. Seigneur bien-aimé, de plus en plus de gens comprennent, de plus en plus nous comprenons ce que cela signifie. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia! Je te remercie de tout cœur, Seigneur bien-aimé, mon Sauveur et mon Rédempteur, de m'avoir donné le privilège de voir et d'être témoin de ce temps, de voir ton serviteur et prophète, de m'avoir permis d'être l'oreille et le témoin oculaire, d'être le témoin oculaire et auriculaire, et de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir ouvert les oreilles pour ce service particulier, pour ce ministère particulier, de m'avoir permis de reconnaître simplement, sans que j'y ajoute quoi que ce soit, qu'il est le serviteur, le prophète, que tu as envoyé pour ramener ton peuple, pour ramener tes enfants à la foi des pères, à la parole. Nous voici, Seigneur, bien-aimés, arrivés à la fin des temps. Seigneur, parfois, moi aussi, je m'impatiente. Pardonne-moi. Je sais que tu as tout prévu, tout ordonné, et que tout se déroule selon ton plan. Nous sommes ici pour te remercier pour Golgotha. Seigneur, parce que la chute était aussi dans la chair et a eu lieu dans le et est passée dans la chair et le sang, c'est passé dans la chair et le sang. Tu as dû devenir chair et sang pour nous racheter, nous ramener à toi, nous sauver. Oh Dieu, je te remercie précisément pour cette révélation qui est devenue un scandale pour beaucoup. Pour nous, elle est devenue un salut. Le salut est la bénédiction.